L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine, présentée par Fabrice Coustet.
Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Patrimoine pour ce nouveau numéro de l'Hebdo. Radio Patrimoine, je vous rappelle que c'est la première web radio 100% dédiée au patrimoine. Chaque semaine, on décrypte ensemble l'actualité économique, financière, immobilière, que faire de ces investissements. Et ça, justement, cette semaine, on va s'intéresser à deux sujets. Alors, le premier, la plateforme des classements universitaires, voilà, puisqu'il y a beaucoup de gens, effectivement, qui étudient, qui poursuivent des études en gestion de patrimoine. On va voir quelle est cette plateforme, à quoi elle sert, comment elle est référencée. Et puis, le deuxième sujet, l'investissement dans le vin. Alors, le lien qu'on a trouvé, c'est quoi? C'est quand on est gestionnaire de patrimoine, on conseille ses clients. Et puis, à un moment, on passe d'étudiant à professionnel. On commence à avoir, son petit capital. Et bien sûr, on peut investir. Pourquoi pas un placement plaisir dans le vin? C'est ce qu'on va voir avec nos trois invités du jour. On est ravis d'accueillir Martial Guette. Bonjour, Martial.
Bonjour.
Alors, vous êtes président fondateur de la SA et d'Universal, leader mondial des classements universitaires. On va voir ça dans un instant. À vos côtés, Alfonso Lopez de Castro. Bonjour, Alfonso.
Bonjour.
Directeur financier à Business School. Vous êtes ici chez vous, hein, Alfonso, on le connaît. On a plaisir chaque mois à vous retrouver pour Financia Live, l'émission qui nous présente des talents dans l'industrie des métiers de la finance. Et puis à vos côtés, vous êtes venu avec Léo Bourgin, un étudiant justement M2 gestion de patrimoine. Bonjour Léo.
Bonjour.
À Financia Business School. Léo, vous allez nous dire justement comment ça se passe. Si vous aussi vous utilisez pour choisir votre école, comment ça se fait? Est-ce qu'on utilise des classements? Est-ce qu'on participe justement à des colloques, peut-être à des conférences? Il y en a pas mal en cette fin d'année pour essayer de s'orienter. Voilà pour ce sommaire, l'Hebdo Patrimoine spécial plateforme des classements universitaires et investissements dans le vin. C'est parti.
L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
On commence avec vous, Martial Guette. Donc, vous êtes fondateur de la SA et d'Universal. Alors, vous proclamez, on pense que c'est vrai, leader mondial des classements universitaires. Expliquez-nous, qu'est-ce que vous faites exactement?
Alors, depuis maintenant presque 20 ans, ça ne nous rajeunit pas, on publie et on produit d'abord des classements universitaires dans lesquels vous retrouvez les formations des plus grandes écoles et des meilleures universités dans le monde, et ça dans 154 pays.
D'accord, donc c'est pas uniquement franco-français, hein, c'est dans Absolument le monde entier, pas. C'est-à-dire vous allez, on aura tous les meilleurs masters, les MBA, etc.
C'est ça, vous avez la plateforme Best Masters, qui est la plateforme internationale qui permet de retrouver les meilleurs masters par thème dans les différentes régions géographiques, le monde étant divisé en 9 parties,
zones géographiques.
Voilà, absolument. Et puis, vous avez un responsable de comité scientifique, responsable académique pour chaque zone, qui est un membre indépendant. Et c'est ce comité scientifique, qui est composé de ces 9 membres, qui va contrôler toute la méthodologie du classement qui est publiée, que vous pouvez retrouver sur les différents sites.
D'accord.
Et donc, et d'Universal, on peut dire que c'est aujourd'hui assimilable véritablement une agence de notation dans l'éducation supérieure.
D'accord. Vous êtes le Fitch Ratings ou le Standards & Poor's du Masters. Et alors, il y a tout type de master ou c'est focalisé justement sur les masters en finance?
Non, absolument pas. C'est vraiment multi-thématique. On a une déontologie qui est de se limiter à des masters qui vont aboutir vraiment à un emploi et à une position sociale importante. Il y a des matières passionnantes qu'on aimerait pouvoir traiter. On reçoit des demandes tous les ans régulièrement d'ouvrir un classement sur les meilleurs masters en archéologie ou ce genre de choses.
Ouais.
Et ça, on se l'interdit.
Il y en a combien, tiens, aujourd'hui, des masters? Combien vous en référencez?
Nous, on en référence dans le monde, dans nos classements, on va dire qu'il y en a à peu près 6 000 aujourd'hui.
6 000, ah oui.
6 000. Et on devrait s'établir d'ici à 2 ans autour de 7 000, mais pas beaucoup plus. Hein. Mmh. Parce que, en fait, vraiment notre ADN, c'est d'accompagner l'étudiant. Donc on a sa confiance. On oriente à peu près 5 millions d'étudiants par an, parmi les meilleurs au monde. Et ces étudiants recherchent l'information rapide, efficace, une information dans laquelle ils vont pouvoir avoir confiance et qui va être immédiatement exploitable. Et c'est ça qui fait la force du classement par rapport à des labels ou à des accréditations. L'étudiant, lui, il a une question à poser, il veut sa réponse en 3-4 secondes. Il consacre 3-4 minutes par an à son orientation et ça s'arrête là.
Ouais, et avec des, on va le voir, hein, des choses très très pratiques, voilà, comment ambitionner l'international, comment rédiger sa lettre de motivation ou encore entrer dans le monde du travail. Bref, on projette l'étudiant, le futur étudiant, hein, c'est un parcours jusqu'à arriver évidemment à l'emploi. À vos côtés, donc, est-ce que, tiens, Alfonso, vous êtes référencé dans ce master, cette base de master, meilleurmaster.com, hein, le site?
Alors, comme Martial Guyette l'a indiqué, il référence les meilleurs programmes. Donc, naturellement, on est référencé. Donc, on a notre master en gestion de patrimoine qui est très bien placé, mais on a quasiment l'ensemble des programmes chez Financia qui sont classés. D'ailleurs, on est un des établissements français qui a le plus de programmes classés. Et on suit ça de très près parce que c'est un vrai classement dans le sens qu'il y a une enquête, il y a un audit auprès des étudiants qui est anonyme et qui pour nous sert aussi de référence pour gérer un petit peu l'école, pour voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Et ça nous donne une grande visibilité. Voilà, c'est-à-dire que l'Universal, c'est un tiers de confiance.
C'est indépendant.
Exactement. Enfin,
c'est pas la peine de faire un chèque à Martial. Vous ne remonterez pas dans le classement si le master est pas bon. Hein, on en espère.
Non, malheureusement.
Ça serait plus simple.
Ça serait beaucoup.
Donc la méthodologie,
simple.
C'est quoi? C'est les étudiants qui votent? C'est un panel indépendant.
C'est une méthodologie un peu complexe parce qu'elle est matricielle. Donc vous avez d'abord.
Alors attention, les mots compliqués. On explique. Hein. Matriciel, ouais. Ça veut dire quoi?
Alors ça veut dire que c'est multicritère. C'est-à-dire que on va avoir d'abord une représentation institutionnel qui va permettre de délivrer des palmes aux établissements, donc de 1 à 5 palmes, et vous avez un millier d'établissements qui ressortent dans ce qu'on appelle vraiment la première ligue. On va prendre une image footballistique puisqu'on a un arbitre sur le plateau.
Oui, on va en parler dans un instant.
Donc on a une première ligue et puis ensuite on va dire qu'on a l'Europa League derrière où on va étendre jusqu'à 2000 établissements. Donc ce sont des établissements qui peuvent pouvoir prétendre monter parmi les 1000 meilleurs. Ouais. Donc ça c'est une première chose. Et ensuite on a la partie classement produit, c'est-à-dire ou service, c'est-à-dire classement des programmes. Et c'est ça que viennent chercher les étudiants, ils viennent chercher le classement des programmes.
Ça veut dire que vous référencez aussi l'ensemble des programmes de ces masters?
Ah oui, bah les programmes, ce sont les masters, c'est-à-dire que voilà. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on interroge dans le cadre du classement institutionnel donc des établissements, on interroge les deans, les doyens sur toute la terre, et vous avez 72% de taux de participation des doyens au ranking et d'Universal institutionnel. Et de l'autre côté, on interroge les étudiants qui sortent des masters pour pouvoir établir le classement des meilleurs masters, sachant que ces étudiants, leur avis va compter pour un tiers dans la note finale. Et c'est une plateforme dont on est très fier, puisqu'on enregistre 62% de taux de participation des étudiants français au classement d'Universal. Et à l'échelle mondiale, on est au-dessus de 30%.
Ce qui est
remarquable, vous imaginez que là donc on parle de la Chine, du Guatemala, de l'Islande.
En termes de trafic, du coup, c'est des chiffres.
Alors, en termes de trafic, nous, on a une politique de référencement qui se limite à aller chercher l'acheteur qui va intéresser nos clients, qui sont les universités, les écoles auxquelles on va vendre des produits dérivés, des services dérivés. C'est-à-dire qu'on va leur permettre d'améliorer la visibilité de leur classement, sachant que le classement, évidemment, vous faisiez une petite plaisanterie tout à l'heure avec ce cher Alfonso, mais...
Il ne peut pas être biaisé.
Non, parce qu'en fait, le classement est réalisé, ensuite, il part chez l'huissier. Et les espaces associés à ce classement, un petit peu dans le vin, si on prend l'exemple du vin, vous avez la collerette du guide d'achète sur la bouteille, sur les rayons, quand vous allez dans la grande distribution. Ben là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on va mettre en valeur, on va proposer à l'établissement ou au programme de mettre en valeur son rang de classement, alors avec une web vidéo, avec...
D'accord, vos clients, finalement, ce sont les écoles pour renforcer leur visibilité.
Alors ça, c'est une grande question, c'est intéressant parce qu'on a des investisseurs qui nous écoutent. C'est la question qui fait le plus débat depuis 15 ans. Quel est le client d'Universal? Est-ce que c'est l'étudiant ou est-ce que c'est l'école? Eh bien, sur un plan patrimonial, très technique, un comptable va répondre, ben c'est l'école, c'est le programme, c'est l'université. Mais si vous regardez sur le plan éthique, est vraiment fondamental. En fait, le client, c'est l'étudiant. Mmh. Parce que l'école et l'université, elles nous voient à la fois comme un policier, comme une autorité un petit peu supra, mmh. voilà. Et elles nous voient en même temps, elles peuvent nous voir comme un fournisseur d'espace.
Bien sûr.
Mais finalement, le client final, c'est vraiment l'étudiant. Parce que si l'étudiant, il n'est pas content et s'il ne nous fait pas confiance, eh bien évidemment, c'est un problème.
Alors justement, ça tombe bien, excellente transition. On a sur ce plateau un étudiant qui a de nombreux talents, puisqu'il est en même temps arbitre de foot, c'est bien ça, Léo ?
Exactement.
Léo Bourgin, vous êtes donc étudiant à Financial Business School, en gestion de patrimoine. Est-ce que vous êtes passé pour choisir votre école par ce genre d'outils ?
Alors oui, tout à fait. Avant de postuler à Financia, j'ai regardé le classement des écoles en gestion de patrimoine. Tout d'abord, pour savoir où je devais me situer à la suite de ma licence, j'ai postulé à plusieurs écoles. J'ai vu que Financia, par recommandation, était une très bonne école. Et en regardant justement sur le classement dont on parlait, était très bien classé. De ce fait, j'ai postulé, j'ai été pris. Et effectivement, ça a été un très grand choix par la suite pour moi.
Ouais, j'étais en train de penser, aujourd'hui, on note tout. Hein, on va au restaurant, on va au ciné, on regarde ce qui se passe. Quand Martial, vous avez dit, il y a plus de 20 ans que vous avez créé ça. Donc, c'est un peu le TripAdvisor des études, quelque ouais. part. Mais c'est étonnant de voir à quel point aujourd'hui on est drivé, c'est-à-dire que c'est le réflexe. Et je trouve ça plutôt intéressant d'avoir une base de données, en plus impartiale, on va dire, oui. pour pouvoir s'orienter. Du coup, Martial, vous, une fois que vous aurez fini le master, vous allez aussi participer et continuer à mettre votre expérience sur cette plateforme ou répondre aux questionnaires qu'on va vous envoyer ?
Bien sûr, j'y mettrai ma contribution pour justement développer donc le classement qui a été mis en place.
Alfonso, vous êtes pour prendre l'analogie du restaurant, vous êtes un peu le restaurateur. Des fois, on voit apparaître ses notes. On peut être déçu, content. Des fois, on est bien noté, des fois, on est mal noté. Pour vous, c'est pas évident. Est-ce que vous avez un droit de réponse ? Est-ce que vous pouvez interagir sur la plateforme avec celui qui n'aurait pas été content ou s'expliquer ?
Alors naturellement, lorsqu'on a un classement qui est très favorable, on est content. Ouais. Lorsque
c'est un argument de vente, tiens aussi pour vous le mettez quelque part, recommandé ou tant d'étoiles, je ne sais pas si c'est des étoiles, mais
oui,
bonne note
sur. Nous on communique énormément sur ça parce que ça fait partie de la transparence en réalité parce que on a vécu un audit externe. Qui est totalement indépendant. Et lorsqu'on peut avoir, ce qui est rare chez nous, on peut avoir un classement un peu défavorable ou qu'on n'est pas d'accord, la première chose qu'il faut, c'est se remettre en question soi-même. D'abord, aller regarder qu'est-ce qui a péché, pourquoi on a eu ce type de classement et qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et c'est ça qui est intéressant, c'est apporter des solutions. Et pas tout simplement dire, mon école est fantastique, tous mes programmes sont très bons. Il peut y avoir des difficultés dans un programme ou autre. Je voulais faire juste un petit aparté, un petit clin d'œil, avant que je n'oublie pas, parce que souvent on parlait de classement et de qualité de programme. Et je voulais faire un clin d'œil parce qu'on a 4 étudiants qui sont à Chicago actuellement, puisque on a gagné le concours CMI, Chicago Mercantile Exchange, donc qui est le plus grand concours de trading au monde, avec les 600 plus grandes écoles au monde, entre Harvard, HEC, LSE à Londres, Yale, tout le monde. Et Financia est arrivé première école française et première école européenne. Voilà. Et donc, on est arrivé en 18e position mondiale. Donc, quand vous êtes dans les premiers, vous êtes invité par la Bourse de Chicago à une formation. Découverte de la Bourse de Chicago, on vous présente les recruteurs.
La dernière bourse physique finalement, hein, Chicago.
Il y a exactement, elle est électronique et il y a un mix électronique.
Un peu comme elle a crié à l'ancien.
Exactement, et qui s'occupe essentiellement des devises, des matières premières. Et donc c'est la plus grande bourse au monde en réalité. Aujourd'hui, ils ont même des contrats futurs sur le Bitcoin. Donc c'est une bourse.
Mais justement, ce que j'allais vous dire, vos étudiants, ils ont gagné, ils ont tout mis sur le Bitcoin, c'est ça?
Non, alors ils nous ont pas donné ils nous ont pas donné les recettes, mais en tout cas, je pense qu'ils ont bien été formés et du coup, avoir un représentant. D'ailleurs, on est le seul Français représentant là-bas. Ça fait 2 fois qu'on gagne en fait ce concours et donc ils sont actuellement là-bas. Donc je voulais faire un petit coup et les féliciter.
Léo, étudiant quand même de gestion de patrimoine, on est alors c'est une formation, faut le dire, hein, gestion de patrimoine, c'est pas uniquement voilà dans les bouquins, c'est aussi appliqué. Ça veut dire que vous allez devoir réaliser des stages très très prochainement. Vous êtes en recherche actuellement.
Alors oui, effectivement. Donc Financia propose son master, donc en 2 ans, en alternance. Donc voilà l'alternance. Donc actuellement, je suis en recherche d'entreprise afin de m'accompagner pour la fin de mon cursus. Dans mon master.
Ouais. Combien de temps à peu près ? C'est un stage long ?
Alors, il me reste jusqu'à fin août. Le contrat peut aller jusqu'à fin août, voire un petit peu plus. Je sais que les contrats peuvent aller à septembre, octobre, voire novembre.
Ouais, c'est une dimension très importante, Alfonso, hein, c'est d'avoir effectivement ce côté théorique, on va dire, mais également pratique au sein d'un cabinet en gestion de patrimoine, qu'il soit grand ou petit d'ailleurs. Hein.
Ouais, effectivement, aujourd'hui, lorsqu'on recrute, il y a le diplôme, il y a la formation, la connaissance, mais les gens demandent aussi une expérience un peu plus forte. Historiquement, les gens, ils arrivaient, les étudiants, sur le marché de l'emploi avec 6 mois de stage. Et en fait, c'est pas assez aujourd'hui. Et la valorisation aujourd'hui d'un étudiant, c'est son diplôme et son expérience professionnelle. Et cette alternance, en fait, elle amène deux avantages. Un, cette expérience de savoir faire un métier. Et lorsque on passe des tests chez un recruteur, on ne parle pas seulement que du diplôme, on dit voilà ce que je sais faire, voilà le métier que je sais faire. Et puis, il y a un autre avantage aussi, c'est l'égalité des chances pour tous, parce que lorsque vous êtes une alternance, vous n'avez pas à payer entre la scolarité et vous avez un revenu. Et vous savez que pendant la période qu'il y a eu du Covid, on voit ces reportages sur ces universitaires qui n'ont pas à manger, qui ont perdu leur petit boulot. Et chez Financia, en fait, vous n'avez pas un petit boulot, vous avez un grand boulot.
Un vrai boulot.
Un vrai boulot, vous apprenez de l'expérience, du métier, vous êtes financièrement...
Et parfois, son job de demain.
Exactement. Et la plupart de nos étudiants sont embauchés à la suite de la certaine. Donc pour nous, c'est une voie dans laquelle on est engagé. 96% de nos étudiants sont en alternance. Et donc nous, on conseille vivement. On a une équipe totalement dédiée pour essayer aux étudiants de trouver leur alternance.
Et en général, tous sont placés. En tout cas, l'appel est lancé pour Léo, hein, qui cherche donc une alternance dans la conseiller en gestion de patrimoine. Voilà, sur Hebdo Patrimoine, on est bien placé. Tiens, une dernière question pour vous, Léo. Après, on fera la pause et on reviendra évidemment aux investissements. C'est vrai que ça a été une année compliquée, enfin des années compliquées, les 15 derniers mois, avec cette crise sanitaire. Là, vous êtes revenu en présentiel, comme on dit, j'aime pas trop ce mot, il est très moche. Enfin, en physique, en vrai, avec les profs, ou bien on reste dans un mode hybride, moitié vidéo ou Zoom ou Teams, et moitié à l'école.
Alors, on a eu, donc, comme vous l'avez dit, pendant un an assez compliqué, mais en distanciel, et ça a été d'ailleurs très bien géré par l'administration et par les intervenants. Donc voilà, c'était du Teams, du Zoom, toutes les applications possibles. Et cette année, donc, on a repris le présentiel à 80-90%. Et on a de temps en temps quelques cours en distanciel. Ouais.
Qu'est-ce que vous préférez, vous, personnellement ?
Moi, personnellement, je préfère le présentiel, donc être en physique. Tout d'abord pour la concentration. Donc, on n'est pas dérangé par l'extérieur. Et de plus, on a vraiment cette interaction sociale avec l'intervenant et avec les autres élèves.
Ouais, on a vu que il y en a. Et après une première phase un peu euphorique, tiens, pour faire la grasse mat et faire ma visio tranquillement, ça pesait un petit peu. Merci Léo Bourgin, en tout cas. Je rappelle que vous êtes étudiant à M2 gestion de patrimoine chez Financia Business School. Le mot est passé pour votre alternance. On poursuit cette émission dans quelques instants. On fait une pause musicale. On continue à parler des placements, des plateformes, des classements universitaires et puis d'un investissement plaisir dans le vin. À tout de suite.
Fleurs sont timidité, insolence chorégraphiée.
swing sur l'hebdo patrimoine, Carla Luciani respire encore.
L'hebdo patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
Et Clara Luciani, on rectifie. Voilà, on est toujours dans l'hebdo patrimoine, spéciale plateforme des placements universitaires. Et puis on verra dans un instant aussi comment investir bien dans le vin, placement plaisir. On est toujours en compagnie de Martial Guiette, le président fondateur de Eduniversal, meilleurmaster.com.
C'est ça. Hein.
C'est votre site internet.
Et
Alfonso, oui.
Il y en a plusieurs. Il y a également meilleurlicence.com et meilleurgrandesécoles.com.
Ah d'accord, ok. Donc,
en France.
C'est vraiment complet. Alfonso Lopez de Castro, notre grand témoin, directeur de Financia Business School, très bien classé dans le classement et sans tricher. Et puis on accueille sur ce plateau également Philippe Poinçon. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Consultant en gestion de patrimoine, société POCG. Bienvenue à vous. Vous êtes notre grand témoin consultant en gestion de patrimoine. Alors c'est vrai qu'on a eu les étudiants aspirants il y a un instant sur ce plateau avec Léo Bourgin donc, qui cherche actuellement un stage. Vous, au cours de votre carrière, c'est pas mal aussi d'avoir des étudiants du 109 qui arrivent dans le cabinet à l'essai pour des missions. C'est de la transmission ?
Oui, absolument. Mais on accueille régulièrement des étudiants. D'ailleurs, je pense qu'au sein de Finindep, ils ont dû déjà accueillir des étudiants de Financia. Oui, bien sûr, on a besoin et éventuellement, à terme, les recruter. Il est arrivé qu'on recrute des jeunes qu'on a eus en alternance et recrutés une fois qu'ils ont eu le diplôme. Ouais.
Martial, on regarde effectivement un des critères qu'on va utiliser quand on cherche son master. C'est évidemment, vous parlez tout à l'heure de Première Ligue, peut-être la Champions League, effectivement, les meilleurs masters, et puis ceux qui sont un peu moins bons, mais ça va dépendre en fait de chacun. Et un des critères aussi, c'est la sortie. Qu'est-ce qu'on aura en espèce sonnant et trébuchant? Est-ce que c'est un critère important pour les gens ou est-ce qu'on est dans un changement? C'était peut-être dans les années 80-90, hein. On se souvient, c'était l'argent roi. Aujourd'hui, on a l'impression que cette nouvelle génération, elle est soucieuse aussi d'autre chose, de ce qu'elle cherche vraiment, du sens qu'elle va apporter justement à sa formation.
Alors, oui, le salaire de sortie compte pour un tiers dans les critères du classement. C'est un critère objectif, voilà. Que je ne trouve pas très glamour ni effectivement très romantique, qui existe et qui doit continuer d'exister parce que c'est une valeur objective. Hein. Maintenant, il est de moins en moins discriminant parce que on est à un tel niveau de qualité sur les masters produits que je dirais qu'il faudrait presque revoir la grille salariale et la durcir un petit peu pour que ça devienne discriminant, mais on essaie de faire en sorte. Ce que je veux dire par là, c'est que vous êtes dans un top 20, finalement, peut-être qu'en 10e position, en 15e position, vous allez avoir le même niveau de salaire de sortie qu'en première position. Mmh. Ça dépend des classements. Les classements, en finance, puisque là, c'est une un des sujets et qu'on a financé sur le plateau, en finance, les classements sont terriblement concurrentiels. C'est-à-dire que le dixième, il est très. On fait le 100 mètres des Jeux Olympiques, quoi. C'est-à-dire que le dixième, il est pas loin du premier.
D'accord.
Donc c'est pour ça qu'il y a des batailles terribles entre les grandes marques, les plus grandes écoles et puis les meilleures universités comme Dauphine, Assas ou Sorbonne, pour ne citer qu'elles. Voilà. Donc c'est effectivement un critère important. Peut-être une remarque très intéressante pour vos auditeurs, puisque derrière votre question, il y a l'idée de se dire, mais finalement, comment un étudiant va choisir dans le classement, comment il va se positionner. Il faut savoir que les meilleurs étudiants, ceux qui sont vraiment les plus motivés, qui ont le niveau, on va dire, Tour de France, eux vont regarder effectivement, être très sensibles au rang de classement, premier, deuxième, troisième. Mais la masse des étudiants, c'est pas ça du tout. La masse des étudiants, elle va plutôt adapter le classement à ses critères et intérêts personnels, notamment géographiques, hein, bien sûr, thématiques, parce que vous avez des thèmes qui, des fois, peuvent être un peu plus pointus dans certains programmes, certains masters. Mais il y a un autre réflexe qui est très franco-français, hein, pas très américain, mais très franco-français, c'est qu'on a plutôt peur de perdre ce qu'on a plutôt qu'envie de gagner. Et du coup, vous avez beaucoup de gens qui s'auto-censurent et qui vont faire un choix. Ils vont se dire, bah voilà.
Un choix raisonnable.
Un choix raisonnable. Moi, je peux pas prétendre rentrer dans les premiers, deuxièmes, troisièmes. Et souvent, ils se gourrent vraiment complètement. Mais c'est une vision qu'ils ont. Et ils vont viser peut-être la dixième position, la quinzième, mais des fois même les deux, trois dernières positions. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle, si vous regardez le business des écoles, parce qu'à un moment donné, c'est aussi un business, eh bien, vous allez vous apercevoir que les écoles qui gagnent le plus de sous, c'est celles qui sont en dernière position et certainement pas celles qui sont premières.
Ah, d'accord.
Eh oui, parce que vous avez, en dernière position, finalement, vous avez la masse des étudiants qui vient spontanément en se disant « moi, je veux une formation classée, ça, c'est vraiment pour moi quelque chose d'important, parce que je suis reconnu, je suis visible ». En fait, ce classement, je dirais qu'il impacte énormément le business des écoles à partir du moment où vous n'y êtes pas. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on est on fait très très attention. On a une responsabilité morale très forte et on a bien conscience que quand un programme sort du classement, ça peut être violent. Mais c'est parce que ça bouge, parce que c'est vivant et qu'il y en a d'autres qui rentrent.
Voilà. Je voudrais faire réagir Alfonso. Vous êtes de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire que vous accueillez les étudiants. Il faut même peut-être il y a un numerus clausus. Vous pouvez pas accueillir des promos de 150 personnes. Donc il y a un tri, il y a un filtre aussi.
Oui. Il y a une sélection qui est très forte. Ouais. Après, ce qui est important d'un échange.
Et ça se passe comment justement chez vous la sélection?
Alors la sélection, il faut un dossier de candidature. Ouais. Ça, c'est la première étape. Une fois que vous l'avez passé, ensuite vous devez passer des tests écrits. Et si vous avez des tests écrits, vous avez le droit de passer à l'oral. Donc voilà. Et une fois que vous êtes à l'oral,
parcours du combattant.
Voilà. Et une fois que vous avez tout ça, il faut aussi convaincre l'entreprise. On va essayer de vous aider ou vous présenter pour obtenir votre alternance. Donc effectivement, c'est un parcours du combattant. C'est pour ça qu'on sélectionne. L'idée de la sélection, c'est essayer de pouvoir apporter quelque chose au candidat, en réalité. C'est-à-dire qu'on soit en accord totalement sur le projet. Pour répondre un petit peu à la question du critère du salaire, qui était il y a quelques années assez déterminante chez les jeunes, on voit comment réellement des changements aujourd'hui, puisque aujourd'hui, ils se posent des questions, par exemple, par rapport au salaire. Ils préfèrent aller vers des entreprises qui ont un impact social ou environnemental qui est fort, des entreprises qui sont très tournées sur, entre autres, l'égalité des chances. Par exemple, il y a des critères comme le respect un peu de la famille, les horaires, le travail, toute une série
de... La proximité géographique, peut-être, pas vouloir trop s'éloigner, aussi, ou ne pas pouvoir aussi.
La qualité, en fait, la qualité de vie au travail prend aussi en compte, en fonction seulement que d'un revenu. Et pour répondre à Philippe, effectivement, chez Finindep, il y a des étudiants financiers, et il y en a même qui ont été embauchés, parce qu'on leur conseille les très bons cabinets, donc naturellement, il y en a chez Finindep.
Philippe Bonson, justement, est-ce que vous aussi, vous avez l'impression que ça change, peut-être dans la nouvelle génération qui arrive, hein, vous avez vu passer quelques têtes, on imagine, avec un changement dans le comportement aussi des nouveaux arrivants, peut-être vouloir mixer davantage vie professionnelle, un meilleur équilibre vie professionnelle, vie personnelle, quelque chose qu'on n'avait pas avant. J'ai l'impression que dans les années 80-90, quand on a commencé, il fallait faire au moins 3 ans, on disait rien, même si c'était le stage photocopie, café, il fallait pas moufter, hein, dans les grands groupes bancaires ou financiers. Est-ce que ça a changé?
Oui, ça change beaucoup. Ça change beaucoup et on s'aperçoit qu'on est de plus en plus sollicité, nous, en tant que gestionnaire de patrimoine, par des étudiants pour des stages et en alternance, entre autres. C'est vrai que ça a beaucoup changé. À une époque, on allait plutôt vers la banque ou l'assurance. Et aujourd'hui, on est très, très sollicité. Et puis bon, on a essayé de passer des partenariats avec, entre autres, Financia, pour justement que ces gens puissent venir vers les cabinets de CGP. Et les étudiants connaissent de plus en plus la vie d'un cabinet de CGP. Et ça nous permet, nous, effectivement, de recruter à terme des gens formés qui ont compris un peu notre métier.
Ah ouais, à qui on met le pied à l'étrier. Absolument. Mais qui ont déjà des solides connaissances. Un mot, Martial, aussi de la formation, on va dire, permanente. C'est-à-dire que voilà, on peut se former à tout âge. Il faut le répéter. On n'est pas les gens peut-être n'osent pas, certains, mais il y a des formations qu'on peut faire en formation continue.
Absolument, il y a un allongement du temps de formation qui est évident. Aujourd'hui, on se forme même entre 50 et 60 ans. Les gens qui sont dans le processus décisionnel des entreprises ont besoin de mettre à jour leurs connaissances. Aujourd'hui, on assiste à une mutation économique sans précédent. Il est évident que la formation doit jouer son rôle dans ce contexte. Donc beaucoup d'étudiants qui reviennent, d'anciens étudiants qui reviennent aux études vers 30 ans, mais beaucoup de cadres qui se forment vers 40.
Et on parle beaucoup des MBA, là. C'est vrai que c'est ces formations un peu généralistes, mais il y a d'autres choses finalement on peut trouver pour améliorer un domaine ou même changer de secteur.
Ouais, alors il y a des institutions, alors notamment américaines, qui propose des modules dans lesquels vous pouvez rencontrer des entrepreneurs. Si vous êtes vous-même entrepreneur, ou des grands présidents. Enfin, vous avez des formations comme ça, des très très hauts niveaux qui se développent au MIT, à Harvard, mais aussi dans des institutions françaises comme INSEAD ou HEC. Voilà. Mais c'est vrai que ça se répand de plus en plus. Le MBA, on va dire que on est sur le désir de valorisation. Il faut comprendre que dans le diplôme, et d'ailleurs le classement joue son rôle là-dedans, c'est qu'il y a l'idée de valorisation. Elle est extrêmement importante, cette idée de valorisation. C'est à ça que sert aussi le caractère diplômant. Mais lorsqu'on dépasse 40 ans, 50 ans, on est beaucoup moins sur la valorisation que sur le réseau et l'expérience. Voilà, c'est ça. Donc les gens vont moins chercher le caractère diplômant, ils vont plus chercher l'expérience, le caractère expérientiel. Ouais.
Et pour ajouter, nous ce qu'on voit, c'est qu'il y a de grandes modifications avec la réforme, entre autres, sur la VAE, hein, la validation des acquis. Et donc là, on voit beaucoup de gens qui, en fait, ont une grande expérience professionnelle et qui n'avaient peut-être pas le diplôme adapté. Ouais. Et donc, la VAE fait revenir énormément de gens sur les bancs des écoles et des classes. Et puis, l'autre réforme, c'est le compte formation professionnelle, hein, où là, on peut venir se former sur des programmes. Et donc, on a un compte avec une somme d'argent et qu'on cotise au fur et à mesure. Et donc, il y a énormément de formations, des fois un peu courtes, des fois un peu certifiantes. Donc, effectivement, maintenant, on vient se former tout au long de la vie professionnelle. Et puis, je sais que Philippe est là, dans le métier de gestion de patrimoine, la formation est même une obligation.
Tout à fait. Et on a de plus en plus, nous, de personnel qui se forment, qui n'avaient pas forcément les diplômes adaptés, et qui viennent se former, qui passent des formations diplômantes, bon, je suis financier ou ailleurs. Bah, moi-même, d'ailleurs, hein, j'ai passé un master de gestion de patrimoine, là où j'ai rencontré, d'ailleurs, Alfonso, et parce qu'on avait besoin d'avoir un diplôme spécifique correspondant à notre métier.
On salue aussi le travail des associations professionnelles, les 4 ou 5 associations là, qui font un boulot formidable et qui produisent ces formations aussi obligatoires tout au long de l'année. On termine cette parenthèse, on va s'intéresser dans quelques instants à l'investissement dans le vin, puisque Martial a plusieurs casquettes, il va nous raconter ça dans un instant. Deuxième pause musicale, on se retrouve avec nos invités dans l'hebdo patrimoine dans un instant. Thank God I can breathe, I can be what they can buy. Even when I'm weak, I'm sure it's gonna be alright. Thank God I got home, I got food and I got ya. Yes, I will survive. Thank God I can breathe, I can be what they can buy. Even when I'm weak, I'm sure it's gonna be alright. Thank God I got home, I got food and I got ya. Yes, I will survive. There will be highs and lows. Thank God I'm rimming okay, okay, not bruised. Damn it, how glasses drive me insane and I'm amazed. When I think about how lucky I am, to wake up in a country full of bombings, killings. Saturday, my God, no fucking problems. Glad you never tried to pull me down. Oh, too many times I did you wrong. Digging in my enemy, then I found the enemies of the fucking niggas who are too strong. And I keep those diamonds in my mind too long. No, they don't believe me cause I look too young. Can every time I see the beauty be the day coming too quickly cause I'm always looking for what's wrong. Thank God I can breathe, I can be what they can buy. Even when I'm weak, I'm sure it's gonna be alright. Thank God I got home, I got food and I got ya. Yes, I will survive. Thank God I can breathe, I can be what they can buy. Even when I'm weak, I'm sure it's gonna be alright. Thank God I got home, I got food and I got ya. Yes, I will survive. Ago, body in the air, like they say it in the shows. You pull me back in it just to teach them what I know. Then I have to go. I gotta go and see all the shit that was in my mind. Thank God I do not leave. When Trump came after Obama, all my strength for the mamacitas. My brothers, sisters, never give up. Beginning of a new world that nobody wants. But if it's another city, who trust in us now? Yeah, I know. Rose got thorns and I got a long way to go. Plus I told ya, yeah. No matter what happens, we never down. Thank God I can breathe, I can be what they can buy.
when I'm weak, I'm sure it's gonna be alright. Thank God I got home, I got food and I got ya. Yes, I will survive. Thank God I can breathe, I can be what they can buy. Even when I'm weak, I'm sure it's gonna be alright. Thank God I got home, I got food and I got ya. Yes, I will survive.
Et on vient d'écouter Riley Thank God, qui a fait une musique par semaine le dimanche pendant un an. Voilà, qu'on peut écouter. C'est un rappeur rouennais.
L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
L'Hebdo Patrimoine, ça continue avec nos invités Martial Guillette, Alfonso Lopez de Castro et Philippe Bonson, des spécialistes de la gestion de patrimoine, mais pas que. Martial, vous avez plusieurs cordes à votre arc puisque vous êtes également fondateur et propriétaire du domaine Les Rocs de Cana. C'est un grand vin de Cahors.
Absolument.
Alors, je ne savais pas qu'il y avait du grand vin à Cahors.
Ça, c'est honteux, je vais partir du plateau.
On veut goûter, du coup.
C'est presque. Non, il y a des grands vins à Cahors, en fait, depuis 2000 ans, mon cher ami.
Très bien.
Puisque c'était le vin préféré des empereurs romains à l'époque de l'Empire. C'était le vin préféré de François Ier.
Ah, voilà. Très bien. Oui, déjà. Ça devait pas être tout à fait la même vinification, par contre.
C'était pas la même vinification. Par contre, c'était le même terroir, cher ami. Et puis, quand Charles Quint est venu, puisqu'on a notre ami Alfonso Lopez de Castro, qui a quelques racines espagnoles, Charles Quint s'est cassé les dents sur le vin de Cahors, puisqu'il est parti humilié, furieux, parce qu'il n'avait jamais bu quelque chose d'aussi bon. Les mets étaient extraordinaires, et François Ier, jour-là, donnait une leçon de savoir-vivre à nos amis espagnols. Donc ça, c'est pour la petite histoire. C'est une histoire vraie que je vous raconte là. On a également... c'était le vin préféré de Pierre le Grand. Et donc, c'est devenu le vin de messe de l'église orthodoxe russe.
D'accord.
Donc, c'est pas rien. Donc, vous voyez, le Cahors a une longue histoire. Et comme disent nos amis chinois qui s'intéressent aujourd'hui beaucoup au vignoble de Cahors... la Chine a plus de 5000 ans... Il fait Cahors à 2000 ans, il fait Bordeaux à 400 ans, et il rigole. Voilà, ça c'est des blagues chinoises, absolument.
Alors justement, non mais pourquoi je vous dis ça? C'est parce que c'est vrai que par rapport à d'autres terroirs, c'est vrai que c'est un terroir qui n'y a peut-être pas encore, et grâce à vous on va réhabiliter, mais la même notoriété. Parlez-nous justement de votre domaine, les Rocs de Cana, ça se situe où? Combien d'hectares ou de parcelles? Et comment se le procurer, bien évidemment. Voilà.
Alors, les Rocs de Cana, c'est un domaine qui fait 40 hectares sur le causse historique de Cahors. Il faut savoir qu'au 19e siècle, à Cahors, on avait 72 000 hectares plantés. Il y a eu le phylloxéra, la crise économique, la Première Guerre mondiale, et puis un gel terrible en 1956 qui a ravagé le vignoble et qui fait qu'aujourd'hui... le vignoble était descendu proche de zéro et en fait a été reconstruit à partir de 1957, enfin les années qui ont suivi. Il était replanté et planté pas mal dans la vallée. Donc le cos historique de Cahors, on va dire qu'il reste quelques centaines d'hectares sur les 4500 que compose l'appellation. Donc vraiment, au Roc de Cana, on est sur vraiment le terroir historique. On est très fiers d'incarner cette culture cadurcienne. Et le cépage, c'est le Malbec.
Le Malbec, bien sûr. Alors, on est toujours en compagnie de Martial Guillette, qui vient de nous parler il y a quelques instants des classements universitaires leader mondial. Moi, ce que je voudrais savoir, Martial, c'est comment vous êtes tombé dans la barrique?
C'est par amour. Je suis un garçon trop romantique. Voilà, parce qu'il faut savoir, et là, je m'adresse à vos auditeurs qui se passionnent pour la gestion de patrimoine et l'investissement. Le vin, c'est une aventure. On a un amateur de foot ici sur ce plateau. Bon, le foot, c'est une aventure, une méga aventure, mais le vin, c'est une sacrée aventure aussi. Et si j'avais su toutes les souffrances que j'allais endurer, je ne sais pas si j'y serais.
Du coup, c'est quoi? C'est un investissement personnel au début? Comment ça s'est passé?
Oui, c'est un investissement personnel. J'ai fait l'acquisition de vignes et ensuite, ça s'est enchaîné. On a levé des fonds auprès de particuliers amoureux du terroir et du projet porté par les Rocs de Cana. Hein, on a quelques personnalités du monde de l'investissement qui ont choisi d'ailleurs d'investir dans le domaine au départ, mais c'est une sacrée aventure et c'est vrai qu'on a eu bien raison de la présenter comme telle, parce que en aucun cas il faut s'imaginer investir dans le vin et avoir des retombées quelconques avant 15 ou 20 ans. C'est même de la folie, enfin c'est totalement
et faux. On dit, et même par rapport au plus grand vignoble, même en Champagne, où les parcelles sont devenues tellement chères que les rendements sont très faibles, aujourd'hui c'est plus des placements patrimoniaux finalement, comme on achèterait un hôtel de luxe. Mais effectivement, du coup, est-ce que vous le conseillerez? Il faut être passionné finalement.
Il faut répondre à un certain profil, répondre à un certain modèle de d'investisseur. C'est-à-dire qu'il faut être un investisseur quand même un peu avec le cœur, quoi. Faut avoir du cœur et avoir envie de se faire plaisir. Et il faut s'inscrire dans un temps long. Et le temps long pour le vin, c'est, allez, on va dire minimum 30 ans. Et puis c'est plusieurs siècles ensuite derrière. Par exemple, nous, là, au Roc de Cana, on se développe bien, mais c'est très lent. Et quand on est dans un monde comme moi, on est dans le monde du digital,
où c'est
l'éducation supérieure, c'est extrêmement rapide. On a un petit côté impatient, forcément, dans le vin, puisque dans le vin, il faut apprendre, il faut être humble aussi. Et puis, il faut savoir respecter le terroir et la vigne. Et donc, c'est la vigne qui fait le vin. Et il ne faut pas se prendre pour plus fort que l'on est. Il faut laisser à la maison le côté ingénieur aussi, je pense, ça c'est mon conseil. Ça veut dire l'œnologie, oui, mais l'œnologie au service, en fait, du vin et de la vigne, et pas l'œnologie qui réinvente le monde tous les quatre matins. Et donc il faut... Il y a un choix stratégique qui est très important. Il faut expliquer à l'investisseur qu'en fait, c'est l'emplacement qui est clé. Je veux dire, si vous vous trompez d'emplacement dans l'investissement vin, vous êtes trompé pour des siècles, en fait. Vous pourrez jamais, vous pourrez peut-être faire un bon vin, vous faire plaisir, mais voilà. Là, on est vraiment sur le jeu de go, on est sur le jeu de stratégie, on est sur un jeu à la chinoise. C'est si vous avez choisi le bon terroir, vous êtes sûr de gagner, mais pas tout de suite. Pas tout de suite, parce que vous avez plein de barrières à l'entrée, vous avez les réseaux commerciaux. Il faut faire une place.
Oui, c'est un métier à part entière, évidemment.
Ouais. Et puis, c'est violent, il y a des combats. Il faut faire preuve d'une très grande résilience. Et puis, c'est très capitalistique, le vin.
Ouais.
C'est-à-dire qu'au départ, moi, je m'étais dit, allez, hop, je vais mettre 600 000 euros. Après, je me suis dit, bon, allez, je vais mettre 1 million. Et puis, j'en suis à plusieurs millions. Je préfère même pas compter. Et je veux dire, c'est une souffrance totale. Et ça ne revient qu'après. Mais une fois que ça revient pour toujours.
Et oui. Et vous êtes dans les pas de grands investisseurs qui sont battus pour certaines grandes parcelles de Bordeaux. Bernard, François Pinon, on se souvient des combats héroïques pour acquérir des belles parcelles. Aujourd'hui, les valeurs ont décuplé au moins. C'est vrai que c'est sur du temps long, puisque c'était des batailles dans les années 90, et aujourd'hui, de les vendre effectivement extrêmement cher. Quelles sont les gammes? Il y a plusieurs...
Alors, on est vraiment dans une gamme... On est structuré comme un grand cru classé de Bordeaux, en fait. C'est-à-dire qu'on a des gammes qui ont des prix très élevés par rapport à un vin de région, puisque notre entrée de gramme aujourd'hui est à 5,50, mais en très petite quantité.
Comment elle s'appelle ?
S'appelle Vin des Rocs de Cana, en fait. On a une cuvée 1305 pour la Chine, parce que c'est la première année où une barrique de vin est partie en territoire asiatique. Voilà. On a surtout nos trois grandes cuvées qui sont le Vin des Noces, qui est un vin qui sort au prix public à 15 euros, qui est une référence aux noces de Cana. Voilà. C'est pour ça que vous avez des notes de bleu sur la bouteille, puisque c'est une référence à l'eau. Voilà. On a Sanguis Christi, qui est un vin en prix public à 25 euros. Et puis, vous avez
le Graal.
Le Graal, voilà, le Graal absolu, le Graal Sanctus, où là, vous êtes sur des prix beaucoup plus élevés, qui, en fonction des pays, parce qu'il est très distribué à l'étranger, peuvent des fois aller jusqu'à plusieurs centaines d'euros. Mais en France, on peut le trouver autour de 70 euros.
Combien de bouteilles aujourd'hui vous arrivez à sortir?
Alors, on a...
Ça dépend des années, évidemment.
Oui, absolument. On a un rendement à l'hectare qui est maximum de 30 hectos et qui est plus souvent de 20-25.
D'accord.
Donc, vous faites le calcul, on est sur 40 hectares, ce qui veut dire qu'au plus bas, on va faire 800 hectos et au plus haut, on va faire 1200 hectos. Donc, disons qu'on a une moyenne à 1000 hectos et du coup, on est en mesure de faire plus de 120 000 bouteilles. En fait, le nombre de bouteilles que vous allez sortir va dépendre aussi de vos débouchés commerciaux. C'est-à-dire que si vous produisez 120 000 bouteilles, quand vous avez en plus un vin de qualité, comme ça peut être notre cas, et avec un packaging de luxe, à chaque fois que vous sortez une bouteille, en fait, vous faites un chèque.
Ben oui, bien sûr.
C'est ça qu'il faut comprendre. C'est quand vous élevez une bouteille, vous élevez du vin en barrique, vous faites un chèque. Et quand vous mettez en bouteille, vous faites un chèque.
Et quand donc vous le étiquetez, retour vous sur investissement n'est qu'au bout de bien des années.
Ah oui, en fait, il faut. Vous faites un business plan, puis vous savez ce que vous faites, vous multipliez par deux ou trois le temps. Le temps pour arriver au bout. Mais par contre, ce qu'il faut reconnaître, c'est le cas à Cahors aujourd'hui, c'est que celui qui investit et qui a la patience, c'est sûr que ses enfants et ses petits-enfants vont être très très contents. Parce que nous, à Cahors, aujourd'hui, on parle d'obtenir le classement Grand Cru. On y travaille vraiment ardemment depuis des années. Alain-Dominique Perrin, pour ne citer que lui, avec Château-la-Grésette, avait été porteur d'un projet en 2002 qui justement a finalement échoué, mais pas par sa faute et ni par la faute des pouvoirs publics, et qui portait le vin de Cahors vraiment au nu. Aujourd'hui, il y a tellement de très grands Cahors qu'il est plus tenable de ne pas avoir de classement et de hiérarchisation. Elle va arriver. Et une fois que la hiérarchisation est arrivée, vous imaginez bien, vous allez avoir nos amis américains, chinois, britanniques qui vont se jeter dessus. Ce qui est déjà le cas. Donc aujourd'hui, oui, c'est sûr que Cahors, c'est une excellente affaire pour tous ceux qui veulent investir dedans parce que c'est un vignoble, en fait, à la fois d'avenir, parce qu'il est très innovant et très dynamique, mais c'est un vignoble aussi qui s'inscrit dans l'histoire.
Bien sûr.
En fait, c'est un des plus vieux vignobles français.
Il est inarrêtable, notre ami Martial Guette. Effectivement, on sent la passion qui vous anime. En tout cas, on renvoie évidemment au domaine, hein, Rairoc de Cana. On parlait de classement tout à l'heure, hein, très bien classé. En tout cas, tous ceux qui ont goûté ont l'air complètement séduits.
On a des notes stratosphériques. Voilà. Et on a été meilleur Malbec du monde à Vinexpo 2009 sur le millésime 2007 qui était notre premier millésime. Parce que je rappelle que le domaine Rairoc de Cana, c'est un domaine qui a été créé de toutes pièces.
De toutes pièces.
En partant, évidemment, de terroirs existants.
Ouais, d'accord. Bon, en tout cas, voilà pour ce placement plaisir ou cet investissement au long cours. On l'a compris. En tout cas, on a réhabilité le vin de Cahors et le grand vin de Cahors à déguster. Cette édition de l'Hebdo Patrimoine s'achève. On remercie évidemment Alfonso López de Castro. Merci Alfonso d'être passé, le patron, le directeur de Financia Business School. Merci également à Philippe Poinçon, consultant en gestion de patrimoine, société POCG. Merci Martial Guette.
Avec plaisir.
Avec vos deux casquettes, vous revenez quand vous voulez. On aura plaisir à trinquer ensemble. Merci à vous qui nous avez écoutés. On se retrouve dès la semaine prochaine. Un merci aussi à Sophie Bernard qui a préparé cette émission, à Théo Nambourg qui l'a réalisée. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de l'Hebdo Patrimoine.
L'Hebdo Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.